Bonjour Immaculée, que Dieu vous bénisse. Bonjour Jean-Gilbert, bonjour Rosanie, soyez bénis. Bonjour la belle-mère, soyez bénis. J'espère que vous allez bien. On est le jeudi 29 juillet 2021. Journée ensoleillée, un peu fraîche, mais ce n'est pas désagréable. Je ne suis pas sûr de pouvoir voir tout le monde qui se connecte ce matin. Il se pourrait que je passe outre certaines personnes qui se connectent. Donc, on vous invite à écrire un petit mot dans la zone commentaire pour être certain de pouvoir vous saluer de vive voix. Bonjour Pascal, que Dieu vous bénisse. Comment ça se passe pour Gabriel aujourd'hui? Je crois que cette semaine, il est en congé, je crois. C'est pas la semaine prochaine que recommencent les traitements, si je me rappelle bien. On prie pour lui, bien entendu. Bonjour à mon père. Bonjour à ma mère qui doit être connectée avec lui ou qui va se connecter tout à l'heure. Je suppose que la frangine est aussi avec vous ce matin, donc on la salue d'un même élan. Bonjour Natacha, bonjour Indirène, bonjour la petite famille. Dieu la bendiga, hermana Susana. Que tienen un buen día hoy. Donc, Pascal, prise de sang aujourd'hui ou prise de sang demain simplement? En général, c'était la veille, si je me rappelle bien, que j'avais des prises de sang. J'en avais aussi le matin même, là, mais habituellement, j'avais des prises de sang la veille ou 2 jours avant de voir le... Ouais, 1 ou 2 jours avant de voir le médecin. Rebonjour la belle-mère, soyez bénie, shalom, shalom. Hello Pastor David, God bless you, happy to have you with us this morning again. Donc on resalue la frangine. Que Dieu la bénisse. Et profitez bien de votre temps ensemble. Bonjour Guy, sois béni. Content que tu sois là encore une fois. Pascal, ça fait beaucoup de va-et-vient avec l'hôpital. Ça n'aide pas au repos, mais en même temps, ça fait partie de l'ensemble de l'histoire. Mais je me rappelle tous ces va-et-vient. Donc, le jeudi, j'allais prendre la prise de sang. Le vendredi, je rencontrais le médecin. Le lundi, je retournais pour ma première séance de chimio. Donc, ouais, je me rappelle beaucoup de va-et-vient. Ça peut être éreintant. Donc que Dieu puisse vous fortifier tous trois. Bonjour Sylvia, God bless you, have a good day. Bonjour Denise, bonjour Gérard, soyez bénis. Bonjour à la sœur Susanna. Thérèse, il était 8h26. Tu abandonnes le 8h25. Sois béni. Donc on continue aujourd'hui notre étude sur 1 Corinthiens 15, le verset 58. Bonjour Denise, cette fois-ci c'est Denise de Laval. Que Dieu vous bénisse. Pastor David, la frangine, it's like, it's not slang, it's just, well, I don't know the word in English, un mot familier. That means sister. So it's not the proper French, but it's like a mot familier. You would use that term among friends or, yeah. So that just means sister. So my sister is in town for a few weeks. She's been there for, a week now, I think, yeah. Yeah, a week. And she's here for about a month. So she's spending half time at my parents' place and half time at her daughter's place. Bonjour Jane. Comment se fait-il que c'est toi qui remplaces Rachel avec la connexion de la sœur Mona et de la sœur Ocilia depuis 2, 3 jours? Content que tu le fasses, très content que quelqu'un puisse prendre soin de notre sœur Mona et de notre sœur Ocilia, qui nous sont fidèles à travers la connexion habituellement de Rachel. Mais comment se fait-il que c'est toi qui la remplaces dorénavant ou juste pour cette semaine? Bonjour Myriam, bonjour Donald. Bonjour Mereste. Déjà plus de la moitié de la semaine qui est passée, donc ton congé tire déjà à sa fin. Je pense que c'était juste une semaine que tu prenais. Alors je suis bien contente, Jane, que tu puisses pallier à Rachel. On a trouvé ça tellement bien qu'elle puisse connecter nos sœurs. Mona, Ocilia, Chantal aussi régulièrement pendant toute cette pandémie pour leur permettre d'être connectés avec nous le matin. Donc c'est très bien qu'en l'absence de Rachel, quelqu'un ait pris le flambeau. Donc merci beaucoup Jane et puis on salue bien entendu la sœur Mona et la sœur Ocilia qui sont avec toi. Bonjour France. Bonjour Patrick. Que Dieu vous bénisse. On espère que vous allez bien ce matin. Donc, on a quand même quelques représentants de la région d'Ottawa, Gatineau. Donc, on vous salue tous. Bonjour Bernadette. Que Dieu te bénisse. Je suppose que tu es avec Hélène cette semaine. Donc, on la salue et on prie pour elle et pour la famille. Oh, c'est 3 semaines, donc tu es juste au début. Ça va. Trois semaines Balconville, c'est le charme des vacances en période de COVID. Mais j'espère que tu pourras en profiter avec la petite famille, avec les enfants, et que tu auras quand même du beau temps. Encore une minute et on va débuter. Bonjour Marie-André, bonjour Farley, que Dieu vous bénisse. Bonjour Babette, bonjour Andreas, soyez bénis. Content que vous soyez avec nous ce matin. Bonjour Lalande, bonjour Landry, bonjour aux belles jeunes filles. Alors, on va prier pour débuter. Merci Seigneur pour cette autre occasion que tu nous donnes de nous réunir, même à distance, à travers le truchement de l'Internet, pour pouvoir étudier ta parole, prendre ce temps pour la méditer et recevoir de toi la nourriture qui nous est nécessaire et tout le breuvage qui nous est nécessaire, nourriture bien entendu spirituelle que nous avons besoin pour cette journée. Pour cette époque, une nourriture que tu avais préparée toute éternité, en connaissant les défis qui seraient nôtres durant cette génération et durant cette période. Nous te demandons donc, Seigneur, de tout simplement nous accorder de saisir et de profiter pleinement de cette bénédiction que tu nous donnes. Envoie ta grâce sur ma sœur, sur mon frère, envoie, Seigneur, une compréhension accrue de ta parole et que celle-ci, Seigneur, soit reçue avec une ouverture d'esprit, avec une bonne disposition de cœur et avec la volonté, Seigneur, de la mettre en application. Alors, bénis ma sœur, bénis mon frère. Et visite-nous, Seigneur, ce matin. Nous t'avons prié dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors, encore une fois, je lis pour vous le texte qui sert de base à nos échanges de cette semaine, qui est sous la thématique « Que fais-tu pour Jésus? » Et si tu as été avec Jésus depuis un certain temps, tu pourrais même mettre le titre au passé avec « Qu'as-tu fait pour Jésus? » peut-être même en se portant vers l'avenir, que feras-tu pour Jésus? Alors, je lis pour vous dans 1 Corinthiens, au chapitre 15 et le verset 58, le dernier verset du chapitre. La Bible nous dit: Ainsi, frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Je répète, ainsi mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Alors que Dieu bénisse sa parole. On est rendu ce matin à la dernière phrase de ce chapitre, dernière phrase de ce verset, ou dernière section de phrase de ce verset qui nous dit, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Il va y avoir quatre mots importants ce matin. Je sais que plusieurs d'entre vous prenez des notes, donc je vais vous donner les mots que nous allons étudier ce matin. Tout d'abord, le verbe savoir, donc dans sachant que votre travail ne sera pas vain, sachant étant le participe présent du verbe savoir. Donc en grec, le verbe savoir, c'est le terme eido, eido, eido. Je répète, savoir, eido, eido. Et comme synonyme en français, vous auriez le terme comprendre, percevoir, chérir et faire attention. Donc, eido, comprendre, percevoir, chérir, faire attention. Le deuxième terme, que votre travail, sachant que votre travail, donc travail, on avait annoncé qu'on verrait le terme aujourd'hui, donc c'est le terme kopos, 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 travail, qui va parler. Ben, je garde la définition pour tout à l'heure. Laissez un espace si vous prenez des notes. Je vous donne l'image qui est donnée tout à l'heure. Donc, KOPOS, travail. 20, votre travail ne sera pas vain. Donc, 20, kenos, K-E-N-O-S. K-E-N-O-S, qui nous parle de quelque chose qui est vide, qui est dépourvu de vérité, qui a été vidé, donc évidé, qui nous parle d'une main qui est vide, c'est l'image que va avoir ce terme-là, ou quelque chose qui est sans but. Donc, kenos, vide, dépourvu de vérité, évidé, main vide, sans but. Et bien entendu, le dernier terme, car votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Donc, Seigneur, Kyrios, un terme qu'on rencontre fréquemment dans nos études et bien entendu dans la parole de Dieu. Kyrios, K-Y-R-I-O-S, K-Y-R-I-O-S, qui nous parle d'un maître, d'un propriétaire, d'un souverain et d'un chef. Donc, Kyrios, Seigneur, maître, propriétaire, souverain et chef. Alors, retournons maintenant au premier terme, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Le terme savoir, eido, comme on l'a dit tout à l'heure. Et on a dit que c'était de comprendre, de percevoir, de faire attention. Ici, lorsque Paul va s'adresser à la congrégation de Corinthe et bien entendu à l'ensemble des croyants qui sont nos contemporains et qui lisent ce verset aujourd'hui, on va parler du fait de saisir pleinement ce que représente travailler pour Dieu, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Paul voulait que les gens comprennent que lorsqu'ils se mettent à l'œuvre pour le Seigneur, c'est une chose qui n'est pas banale. Elle n'est pas banale aux yeux de Dieu et elle ne devrait pas non plus être banale à nos propres yeux. Lorsqu'on dit qu'elle n'est pas banale, c'est que Dieu prend en compte le travail que l'on fait. À travers les dernières semaines et voire même à travers les derniers mois, c'est une thématique, le travail pour Dieu, qui est souvent revenu dans nos échanges, où on devait se poser la même question qu'on se pose aujourd'hui, à savoir, qu'est-ce que je fais pour Jésus? Mais on s'est rendu compte que c'est non seulement ce que je produis, mais aussi la qualité de ce que je produis. Donc, quel est l'effort? Quelle est la qualité de ce que j'amène au pied du Seigneur? On a parfois parlé du terme qui était de louer Dieu. Et louer Dieu voulait dire rendre lourd le Seigneur, exalter Dieu, élever le Seigneur, qui voulait dire rendre lourd le Seigneur comme s'il était dans une balance où on le compare à d'autres items de notre vie. Et on disait, quelle serait la chose la plus lourde? Est-ce que ce serait mes activités sociales ou ça serait le Seigneur? Est-ce que ce serait mes bien-aimés ici-bas sur terre ou ça serait le Seigneur? Est-ce que ce serait mon travail séculier ou le Seigneur? Qu'est-ce qui pèse lourd dans la balance? Et plus on veut honorer le Seigneur, plus on va voir à ce que le Seigneur pèse lourd dans la balance. Alors, lorsque Paul est en train de dire aux gens de comprendre, de réaliser que le travail dans le Seigneur n'est pas vain, il voulait aussi que les gens comprennent l'importance du travail pour le Seigneur, mais ce que ça représente aussi dans la vie du croyant. Alors, quelle est cette qualité que tu donnes au travail de Dieu? Quelle est cette importance que tu accordes au travail pour Dieu? Est-ce qu'effectivement, tu es un serviteur du Seigneur pour débuter? Deuxièmement, si tu es un serviteur du Seigneur, est-ce que tu sers effectivement le Seigneur avec tout ce que tu as, avec tout ce que tu as de meilleur? Est-ce que ce que tu donnes au Seigneur en qualité, en quantité, en effort, en engagement, est-ce que c'est le meilleur que tu peux donner? Alors, c'est une bonne question pour nous aujourd'hui et une question qui devrait nous habiter tout au long de cette journée et nous faire réfléchir. Donc, Paul va dire à l'Église, je veux que vous saisissiez pleinement ce que représente vraiment travailler pour Dieu. Et là, il va arriver avec le terme kopos, le terme travail. Et je vous disais que il y a une image dans ce terme-là, kopos, que je gardais un peu secrète jusqu'à ce qu'on l'étudie. Lorsqu'on parle de travail, on parle de labeur intense et on parle de trouble. Non, j'ai pas encore dit l'image qui vient avec. Mais les deux synonymes principaux vont être trouble et labeur intense. Donc, la personne qui entendait le terme « kopos » lorsqu'il va être mentionné au temps de où le Nouveau Testament a été écrit, l'utilisation de ce terme « kopos » ne vous représentait pas une activité comme les autres, ne représentait pas une activité ludique à laquelle on s'adonne occasionnellement quand on a du temps. Non, non, lorsqu'on parlait de « kopos », on parlait d'un engagement qui allait être coûteux, qui allait être demandant. Alors, la première chose que tu dois savoir, c'est que si tu travailles pour Dieu, le travail en soi est demandant et celui pour Dieu est aussi demandant. C'est vrai qu'il nous fait reposer dans de verts pâturages. C'est vrai que notre patron et notre berger nous conduit près des eaux paisibles. C'est vrai qu'il prend soin de nous. C'est vrai qu'il restaure nos forces, qu'il nous régénère. Mais on ne peut pas restaurer quelque chose qui n'a pas d'abord diminué. On ne peut pas réemplir quelque chose ou remplir de nouveau un vase à moins que celui-ci n'ait été vidé. Et lorsqu'on va parler du travail pour Dieu, il était très clair dans l'auditoire de Paul ou dans les lecteurs premiers de l'apôtre Paul, qu'on parlait ici d'un travail pour Dieu, oui, mais d'un travail qui représentait, qui demandait, qui exigeait des forces, qui exigeait le déploiement de forces et d'efforts en vue d'accomplir ce travail. Il y a trop de gens qui travaillent pour le Seigneur comme si c'était une activité sociale, qui travaillent pour le Seigneur comme si c'était quelque chose de banal. La Bible nous dit « là où sera ton cœur, sera aussi ton trésor » ou « là où sera ton trésor, sera ton cœur ». Si effectivement tu donnes et tu accordes à Dieu et à son travail l'importance qui se doit, tu vas aussi accompagner de ce sentiment d'importance que tu accordes au travail de Dieu tous les efforts nécessaires. Lorsque quelque chose te tient à cœur, tu t'y investis, on y accorde du temps, on y accorde des efforts, on y accorde un temps de préparation adéquat, on y accorde même une formation continue où on essaie de développer à chaque jour de nouveaux outils, de nouveaux talents, de nouvelles capacités. Le travail de Dieu va demander une même chose. Lorsque Paul va utiliser le terme « kopos », il va être très clair avec l'Église comme quoi ça demande du travail. Le travail de Dieu ne se fera pas sans effort. Le travail de Dieu ne se fera pas sans engagement. Le travail de Dieu ne se fera pas sans une continuité ou une pérennité dans ses efforts et dans cet engagement. Et c'est trop triste de voir les gens, ou les chrétiens plutôt, ne pas accorder à l'œuvre de Dieu l'importance qui se doit et de ne pas traiter l'œuvre de Dieu et l'avancement du travail de Dieu avec toute l'importance qui lui serait due. Donc, pour toi et pour moi qui nous écoutent ce matin, tu ne pourras plus jamais dire que tu ne savais pas que pour le travail de Dieu, tu devais déployer tous tes efforts et toutes tes forces. Si je suis la première personne à te le dire de toute ton existence, j'en suis très triste parce que ça veut dire qu'à travers ces dernières années jusqu'à ce point d'aujourd'hui, si tu connais le Seigneur depuis un certain temps, tu n'as peut-être pas déployé tous les efforts qui se devaient. Le travail pour Dieu, le travail à l'égard de Dieu va exiger de ta part des efforts. Et ces efforts continuent jusqu'à ton dernier souffle. Le travail de Dieu dans ta vie ne termine que lorsque tu passes dans l'éternité. Et foncièrement, ceux qui pensent qu'on va être sur des nuages à jouer de l'harpe et puis à se reposer et à ronfler lorsqu'on va être au ciel, non. Au ciel, on va aussi servir le Seigneur. Donc, prépare-toi à servir le Seigneur adéquatement ici. Prends déjà cette habitude de servir Dieu parce que nous allons servir Dieu pour l'éternité. Nous allons le servir effectivement comme il se doit, en bonne et due forme. Mais pourquoi attendre dans l'éternité? Puisque notre travail ici-bas va viser à amener de nouvelles brebis dans la bergerie, donc à éviter une condamnation éternelle à nos congénères, à nos contemporains. Donc je t'invite à travailler avec toutes tes forces, avec toute ton énergie, avec tout ton engagement envers Dieu. Il n'y a pas une autre façon que celle-ci de travailler pour Dieu. Le terme kopos va aussi avoir donc cette image que je vous ai retenue jusqu'à présent. Kopos va vouloir dire se frapper la poitrine avec douleur. Et c'est cette image où quelqu'un parle et lorsqu'il parle, il se tape la poitrine. Peut-être que vous l'avez déjà vu dans certains discours où quelqu'un va parler avec tellement d'émotion, avec tout son cœur, voire même toutes ses tripes, il va s'exprimer. Régulièrement, la personne va se taper la poitrine. Et ça parle de tout l'engagement émotif, l'engagement émotionnel qui est aussi associé au travail pour Dieu. Mais de surcroît à cela, on parle aussi de se taper la poitrine, notamment lorsque la parole de Dieu va nous parler du publicain et du pharisien. Le pharisien qui vient louer Dieu au temple et qui regarde tous les autres et qui se met à parler très très fort pour que tout le monde l'entende en disant « Ah, je suis Seigneur tellement reconnaissant de ne pas être comme ce publicain. Voici ce que je fais à tous les jours. Voici combien je jeûne deux fois par semaine. Voici combien je donne à ma dîme. » Et il se présente avec tous les grands fla-fla et avec tous les grands discours. Alors qu'il y a ce publicain qui avec honte, c'est même plus de l'humilité, c'est de la honte qui se tape sur la poitrine en disant qu'il n'est qu'un pécheur et qu'il appelle la grâce de Dieu ou qu'il interpelle la grâce de Dieu à son égard. C'est ces deux notions-là qui nous sont importantes. Celui qui s'adresse à Dieu dans son travail et celui qui fait son travail en se tapant la poitrine en disant « Seigneur, tout ce que j'ai, je te le donne ». Qui fait son travail avec toutes les émotions, avec tout l'engagement, avec tout le facteur émotif qui vient avec, et l'autre qui se frappe la poitrine en comprenant qu'il n'est pas digne de servir Dieu. Nous ne serons jamais dignes de servir Dieu. Notre capacité à servir Dieu ou notre habilité à servir Dieu, le fait qu'on a été habilité à servir Dieu, le fait qu'on a été rendu apte à servir Dieu est une grâce du Seigneur. Il a lavé nos mains, il a lavé nos lèvres, il a lavé notre esprit, il a lavé notre corps, il nous a purifiés pour qu'on puisse amener à sa table le service qu'on lui rend. Et cela vient de la grâce de Dieu. Donc nous devons servir Dieu avec toute l'humilité du publicain qui se frappe sur la poitrine en disant « Seigneur, je ne suis pas digne de te servir », mais le servir aussi avec tout l'engagement émotionnel que devrait susciter le service de Dieu. J'aime souvent me rappeler que je ne suis rien devant le Seigneur et que lorsqu'il a créé l'univers et que depuis que l'univers a été créé, je n'ai jamais contribué à garder la planète Terre là où elle est. Je n'ai jamais contribué à garder le soleil là où il est. Je n'ai pas créé le soleil et assurément, je ne l'ai pas maintenu en place jusque aujourd'hui. Tout cela s'est fait à mon insu par le Seigneur. Tout cela s'est fait par la grâce de Dieu. Et vous et moi, on est dans le même état. même type de service où, Seigneur, je sais que tu peux te passer de moi, je sais que tu n'as pas besoin de moi pour faire ce que tu veux faire, mais tu me fais la grâce immense de pouvoir te servir. Alors aujourd'hui, lorsque tu parles au service de Dieu, lorsque tu parles plutôt du service de Dieu, quelles sont tes émotions? Est-ce que tu parles du service de Dieu comme un bras qu'on te tord? Où tu parles du service de Dieu comme une grâce ineffable. Lorsqu'on grandissait, le discours est quand même moins présent, où on entend moins ce genre de discours. Mais je vous ai déjà dit que à une certaine époque, lorsque on grandissait dans l'Église, parfois on avait des gens qui nous visitaient de l'étranger, qui venaient nous parler de différents champs missionnaires. Et une des choses qui me choquait, c'était de comprendre ou d'entendre régulièrement combien c'était difficile, combien c'était douloureux, combien c'était demandant, combien c'était tiraillant, combien les gens semblaient servir Dieu, mais avec toute la douleur qui pouvait exister dans ce monde, elle était personnifiée en une seule personne qui était le missionnaire qui avait devant nous. On doit faire attention comment on parle du service de Dieu. J'ai dit tout à l'heure, oui, c'est exigeant, oui, c'est demandant. Mais lorsqu'on on sous-pèse l'exigence et le privilège de servir Dieu, ça ne se compare même pas. Actuellement, on a les Jeux olympiques qui se passent à Tokyo. Donc, plusieurs d'entre nous, on suit ces compétitions et on voit des athlètes au sommet de leur forme. On en voit même qui ne sont pas au sommet de leur forme, mais qui ont malgré tout décidé d'être à Tokyo et de compétitionner. Et ils y sont, et pour eux, il est plus important de finir la course, d'être dans cette épreuve sportive dans laquelle ils sont, plutôt que de regarder la douleur qui peut les affliger. Quel type de serviteur es-tu? Es-tu le type qui va venir parler du service de Dieu comme si tu étais déjà un martyr, mais pas un martyr du diable? C'est pratiquement Dieu qui t'a mis dans un endroit que tu n'aimes pas, que tu n'apprécies pas, auprès de gens que tu n'affectionnes pas. Ce n'est pas le service de Dieu, cela. La Bible nous dit que son joug est léger, que son joug est doux. Alors faisons attention à ce qu'on dit. Toutefois, aimons le service de Dieu comme il se doit. Je suis le plus faible, le dernier des derniers, va nous dire Paul, mais malgré tout, il sert son Dieu. Il va dire qu'il ne comprend pas comment le Seigneur a pu le choisir, lui qui était un oppresseur de l'Église, lui qui était un meurtrier des premiers croyants. Il a été celui qui a approuvé le meurtre d'Étienne. Il était celui à qui on a donné nos manteaux pendant qu'on prenait des pierres pour les jeter sur Étienne. C'était Paul qui gardait les manteaux et qui a pris acte du martyr qu'a subi Étienne. Et Paul va dire, à cause de tout cela, je ne devrais même pas servir Dieu. Je suis le plus petit de tous les apôtres, mais je suis ce que je suis à cause de la grâce de Dieu. Et Paul s'est donné entièrement, totalement à l'œuvre de Dieu parce qu'il savait combien cette œuvre était importante. Troisième terme, et toujours dans le sens d'important, on continue en fait dans le sens d'important, votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Votre travail ne sera pas kénos dans le Seigneur. Donc, deux sens. Premièrement, aucun labeur n'est plus justifié et plus nécessaire que le travail pour Dieu. Si on dit que votre travail ne sera pas vain, c'est qu'il est possible effectivement d'être attaché à certaines activités et ces activités-là n'apportent pas grand-chose. Il arrive parfois qu'on appartienne à un groupe, qu'on appartienne à un club, qu'on appartienne à un regroupement d'individus qui prônent quelque chose, mais on se rend compte avec le temps que notre appartenance, c'était plutôt une perte de temps. Ce qu'on avait espéré que ce groupe allait faire, C'était banal et ça n'avait aucune portée sur le long terme. Le travail de Dieu n'est pas comme ça. Le travail de Dieu a une importance pour Dieu, à prime abord, pour ceux qui en bénéficient. Donc, la brebis qui vient à Christ, le pécheur qui vient à Christ et qui se repent, alors ton travail va avoir contribué au salut d'un frère ou d'une sœur, mais de surcroît à cela, et on l'a vu à travers les dernières semaines, ton travail va être rémunéré, ton travail va recevoir une récompense qu'on appelle une couronne qui te sera donnée et octroyée par le Seigneur dans l'au-delà, dans l'éternité. C'est le travail que tu fais ici-bas sur terre maintenant qui t'assure le jour où tu passes dans l'éternité une couronne ou non. Donc ce travail est non seulement important pour Dieu, ce travail est non seulement important pour les âmes qui en bénéficient, parce que certaines d'entre elles vont venir à Christ à cause du travail que tu auras accompli, et de surcroît à cela, de ton travail vont aussi être tributaires les couronnes que tu recevras ou ne recevras pas, parce que tu n'auras pas fait ton boulot dans l'au-delà. Lorsqu'on parle de kénos aussi, ton travail n'est pas vain. Sachant une chose, si le travail pour Dieu est le travail le plus justifié qui soit, le travail pour Dieu est aussi le plus important qui soit. Lorsqu'on s'arrête simplement à la notion que notre travail contribue à la vie éternelle ou à la condamnation éternelle de nos frères et de nos sœurs, est-ce que dans cela, on pourrait trouver une cause plus grande, une cause plus importante, une cause plus noble que celle-là, le travail pour Dieu, il ne se trouve aucun comparable ici-bas sur terre. On ne trouve rien qui se compare à l'importance de travailler pour Dieu. Et là, je ne suis pas en train de parler que du jour au lendemain, tu abandonnes ton boulot séculier et tu te mets à tout simplement travailler pour Dieu. Dans ton boulot séculier, tu peux aussi témoigner de Christ. Dans ton boulot séculier, tu peux aussi travailler pour le Seigneur. Et c'est même pas tu peux aussi. Tu devrais assurément travailler pour le Seigneur là où tu travailles. Tu es infirmier, tu es cuisinier, tu es avocat, tu es couturière, tu es concierge, tu es conducteur de bus, peu importe où tu travailles, peu importe où le travail séculier te place, tu devrais le percevoir comme une nouvelle occasion de servir Dieu. Et ce travail pour Dieu, dans cet endroit si saugrenu où tu peux travailler, cet endroit-là devient ton champ missionnaire, devient ton endroit de mission pour travailler pour le Seigneur. Et je le rappelle, il n'y a pas de plus grande tâche, de plus noble tâche, de plus importante tâche que de travailler pour le Seigneur. Votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Ce qu'on se disait dimanche, c'est que lorsqu'on regarde la structure de phrase en grec, elle est un peu différente que celle en français. En grec, elle est probablement plus claire que la nôtre. En grec, la phrase va plutôt dire, sachant que ton travail pour le Seigneur ne sera pas vain. Et c'est pas que ton travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Cette formulation en français voudrait dire que, ouais, ça sera pas vain pour le Seigneur va en tenir compte et il va te bénir. Dans le grec, c'est plutôt la notion que ce travail est pour le Seigneur et que ce travail pour le Seigneur ne sera pas vain. Donc, on a ce vieux cantique et je sais que le pasteur David, la sœur Sylvia qui nous écoute et puis peut-être que d'autres l'ont déjà chanté à l'époque, mais je me rappelle le pasteur David lorsqu'on faisait des cultes bilingues ici à l'église de Montréal, on avait un cantique qui revenait souvent et c'était le cantique qui disait Remember what you do for Christ will last. Remember only what you do for him will last. Remember only what you do for God will count. Rappelle-toi, je traduis simultanément, rappelle-toi que ce qui va durer, c'est ce que tu fais pour le Seigneur. Rappelle-toi que ce qui va compter ultimement, ce n'est que ce que tu fais pour le Seigneur. Le travail pour le Seigneur, voilà ce qui va compter pour tes couronnes dans l'éternité. Le travail pour le Seigneur veut donc dire que tu as un propriétaire ou tu as un patron. Tu as un supérieur. Et face à un supérieur, comme dans n'importe quel boulot, il faut que tu fasses le boulot tel qu'il est demandé. Je connais quelques personnes qui sont soit des propriétaires d'entreprise ou qui sont des chefs d'équipe. Et lorsqu'on parle avec eux, on se rend compte que un de leurs rôles, c'est d'assigner à l'équipe subalterne, aux ouvriers qu'ils ont, un travail à accomplir. Donc toi, si le Seigneur est ton chef d'entreprise, si le Seigneur est ton chef d'équipe, il faut donc que le Seigneur puisse aussi te dire comment travailler, où travailler et quels sont les résultats qu'il attend. Il arrive trop souvent que nous soyons dans l'équipe du Seigneur, mais qu'on veut imposer au Seigneur notre façon de faire. Seigneur, moi je me limite à ceci. Ou moi, je me limite à ce temps-là. Ou moi, je me limite à cet effort-là. Ou moi, je me concentre sur telle chose. Et peut-être que le Seigneur est en train de te dire, non, je préfère que tu fasses autre chose. Je me rappelle dans les premiers temps où je commençais à servir le Seigneur. J'étais pas encore pasteur à l'époque. J'étais au sein de la congrégation ici. Je siégeais sur le comité de direction de l'Église, mais j'étais juste en train de faire mes premiers pas dans le ministère. Mais dans ma tête, c'était arrêté que Florent était appelé à un ministère itinérant, que Florent allait partir prêcher d'une église à une autre et puis qu'il ferait comme ça pour le restant de sa vie. Et quelqu'un est venu me voir à ce moment-là, un frère que j'apprécie énormément, est venu me voir et m'a dit, Florent, tu es encore jeune pour te spécialiser, tu es encore jeune pour te fermer des portes. J'ai peur que en ciblant trop une chose, que tu passes à côté de multiples bénédictions que Dieu a pour toi. Florent n'est pas parti d'une église à une autre. Je l'ai fait un peu. On m'a invité dans différentes églises, dans différents concerts, dans différentes congrégations. Mais ce faisant, je me suis quand même laissé l'ouverture pour que Dieu puisse m'utiliser comme il voulait, là où il voulait, quand il voulait. Pourquoi? Parce que au départ, c'est lui mon patron. Si j'avais continué dans la voie où je m'étais lancé, j'allais dire à mon patron, voici le périmètre dans lequel te servir de moi, mais pas au-delà de ces dimensions-là. Nous sommes des ouvriers du Seigneur. Nous avons donc un maître, nous avons donc un Seigneur qui est sur nous, qui doit nous dire quand, comment, et ce qu'il attend de nous. Travaillons soumis à la volonté du Seigneur. Alors, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? On a vu qu'on doit tout d'abord accorder au travail du Seigneur toute l'importance qui se doit. Il faut que ça devienne une chose claire dans notre esprit, combien important est le travail pour Dieu. De surcroît à cela, on doit comprendre que le travail pour Dieu, comme n'importe quel autre travail, va comporter des exigences, va être demandant, va exiger du temps, va exiger des efforts, va exiger qu'on déploie de l'énergie à son égard. Tu ne fais pas un travail sans déployer d'efforts. Et le travail pour Dieu va te demander à toi aussi des efforts. De surcroît à cela, on doit servir le Seigneur avec toute l'humilité de celui qui ne pourra jamais être digne même de défaire les chaussures de son Seigneur, et aussi avec toute l'émotion et avec tout l'engagement qui dit « Seigneur, je ne ferai rien d'autre de ma vie que de te servir ». Travailler avec Dieu avec toutes les émotions. en bon québécois ou en bon français, travailler pour le Seigneur avec toutes nos tripes. Ça va au-delà d'un engagement de nos lèvres. Dans notre travail pour Dieu, il doit y avoir toute cette émotion qui vient du plus profond de notre être. Savoir que notre travail n'est pas vain pour Dieu parce qu'il en prend note et il bénéficie de l'œuvre de ses enfants. Il n'est pas vain parce que de notre travail s'ensuit la conversion ou la condamnation de notre génération. Qu'il n'est pas vain aussi parce que c'est de notre travail, en bout de ligne, que les couronnes qui nous seront destinées nous seront octroyées ou non. Et enfin, que nous travaillons effectivement pour le Seigneur, donc soumis à la volonté, à la direction, au plan, à la méthode, au temps, à l'orientation que Dieu veut pour notre travail. Nous ne sommes pas le patron, il est le patron. Alors prions ce matin. Merci Seigneur pour cette parole, merci pour ce temps d'exhortation. Je te prie Seigneur de parler à ma sœur ce matin. Je te prie de parler à mon frère ce matin, de nous faire réaliser combien ton œuvre est importante et combien, Seigneur, tu nous regardes en nous demandant « Vas-tu te mettre à travailler et vas-tu travailler avec tout ce que tu as ?» Seigneur, on ne peut pas te mentir. Très souvent, on a des retenues dans ce qu'on fait. On ne déploie pas tous nos efforts. On ne te donne pas tout le temps qui serait nécessaire. On ne s'engage pas pour aussi longtemps que tu le voudrais. On ne vibre pas pour l'œuvre à laquelle tu nous as appelés. Je prie, Seigneur, que cela change. Qu'on puisse te servir avec toute notre force, avec toute notre âme, avec tout notre esprit. Qu'on puisse effectivement t'adorer avec tout ce qui est en nous, mais qu'on puisse travailler pour toi avec tout ce qui nous habite. Que lorsque tu fais le bilan de notre travail, toi qui sais sonder les cœurs, les pensées, les motivations, qu'il n'y ait aucun doute que nous avons déployé à ton égard tout ce que nous avions. Seigneur, nous voulons nous rappeler aussi qu'aucun d'entre nous n'est digne de ce travail, qu'aucun d'entre nous ne mérite même de travailler pour toi. Alors merci Seigneur de nous accorder cet immense privilège de te servir, de mettre nos faibles capacités, nos faibles habiletés, nos faibles forces à faire avancer l'œuvre de Dieu. Merci d'accepter cette offrande. Merci aussi Seigneur, parce qu'on sait que ce travail n'est pas vain. Pas qu'on travaille pour une rémunération, pas qu'on devrait travailler pour une rémunération, mais tu es un juste maître, un juste patron, un juste propriétaire de l'œuvre, et par conséquent, Seigneur, tu sais aussi récompenser tes ouvriers. Alors assurément, tu as des bénédictions pour ma sœur, pour mon frère, et pour l'engagement, Seigneur, qu'ils auront déployé à ton égard. Je prie, Seigneur, que à partir d'aujourd'hui, on puisse s'engager à travailler mieux et encore davantage pour toi. Que cette semaine d'enseignement n'ait pas été vaine dans sa portée, mais qu'elle nous amène tous et chacun à analyser ce qu'on a fait pour toi jusqu'à présent. Qu'on puisse réfléchir à savoir qu'est-ce qu'on a fait pour toi. Qu'on puisse réfléchir à ce que l'on fait pour toi actuellement. Et assurément, Seigneur, qu'on puisse réfléchir à ce que nous comptons faire pour toi à partir de ce moment-ci. On ne pourra jamais plus dire que nous n'avons pas entendu, que nous n'avons pas connu, que nous n'avons pas été enseignés. On ne pourra pas dire, Seigneur, que tout cela nous était inconnu. Tu nous as parlé très clairement cette semaine. Alors puisse, Seigneur, ma sœur, mon frère, s'engager à te servir avec tout ce qu'ils ont et avec tout ce qu'ils sont. Bénis-les aujourd'hui, bénis-nous aujourd'hui, donne-nous l'occasion de te servir. Dans le précieux nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, C'était ce qu'on avait pour aujourd'hui. On va se retrouver demain matin. Demain, c'est vendredi, donc journée de jeûne et de prière pour tous ceux qui le peuvent, tous ceux qui le veulent. Un rappel important. Nous sommes dans les inscriptions pour le culte de dimanche et cette semaine, les inscriptions sont un peu plus lentes. Je crois, comme ça arrive à l'occasion, qu'il y a des gens qui croient nous avoir appelés, qui croient s'être inscrits, mais qui confondent avec la semaine précédente. Donc, si vous n'avez pas reçu à travers les dernières heures, en fait, en travers l'après-midi d'hier, si vous n'avez pas reçu un courriel, un texto ou un appel, c'est probablement que votre inscription ne nous est pas parvenue. Donc, on vous invite à vous inscrire. Vous avez encore jusqu'à demain midi pour vous inscrire et assister à l'assemblée en présentiel pour ce dimanche. Donc, on espère compter sur vous. On espère vous voir ce dimanche, que vous serez nombreux à profiter de cette occasion de venir célébrer avec vos frères et vos sœurs. Alors, sur ce, je vous souhaite une belle journée. Travaillez bien, travaillez mieux, travaillez davantage pour le Seigneur. Votre travail ne sera pas vain. Votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Bonne journée à tous.